merci Cyril pour cette belle présentation et où on voit bien, grâce à ton intervention sur le collège, que on parle beaucoup d'accompagnement des familles, d'accompagnement à l'entrée au CP, à l'école primaire, et puis tout d'un coup, on bascule dans la problématique du décrochage et de Pierre Perrier a une formule, il dit, il parle du décrochement scolaire familial, c'est-à-dire qu'un enfant ne décroche pas tout seul, il décroche avec sa famille, et il ne raccrochera pas tout seul l'école, c'est avec la famille. Et là, on est rentré dans une thématique qui est assez chère au Centre à Savary aussi, où il y a des gros dossiers qu'on travaille sur cette question du décrochage scolaire. Et où les familles ont à être prises en compte d'autant plus.
Alors, je ne sais pas si j'ai tout à fait bien compris. Vous avez présenté comme le décrochage, vous avez présenté le décrochage comme se situant vraiment sur la liaison CM2-6e.
Ah oui.
D'accord. Alors, moi, très curieusement, dans mon expérience, c'est pas du tout quelque chose que je vérifie. Tous les dossiers que j'instruis, je voudrais dire que dans le collège dont je m'occupe, tous les dossiers des élèves qui arrivent du premier degré sont systématiquement examinés à la loupe et on garde tous les documents depuis la maternelle. Hein, on garde tous les documents qui viennent du premier degré. Et curieusement, je m'aperçois, et d'ailleurs je suis pas très étonnée, que les enfants qui vont être en grande difficulté scolaire et en grande difficulté souvent aussi d'ailleurs, pas systématiquement, mais pour certains d'entre eux, en grande difficulté comportementale. Et j'entends par grande difficulté comportementale, pas forcément d'ailleurs des enfants qui vont poser problème parce qu'ils vont faire les imbéciles, ils vont être perturbateurs, etc. Grande difficulté comportementale, ça peut aussi être l'enfant complètement éteint, qui devient amorphe, etc. Voilà, c'est les deux difficultés sont possibles. Mais en tout cas, les élèves qui vont être en grande difficulté comportementale et qui vont se déscolariser dans l'école, sur le cycle central, donc en 5e, 4e, très souvent, ce sont des élèves pour lesquels j'ai remarqué qu'il y avait eu une intervention du RASED, quand je regarde les dossiers, qu'il y avait eu des alertes sur le premier degré nombreuses, hein. Et très souvent, on a mis en place dès l'entrée en sixième, parce que on était alerté par des dossiers issus justement de l'élémentaire. Et quand je dis de l'élémentaire, c'est pas du cycle 3, hein, c'est déjà remontant au cycle 2. Et parfois à la grande section de maternelle, où il y avait déjà un certain nombre de problématiques qui avaient été soulevées, intervention du maître G, etc. On voit que ce sont des enfants souvent qui ont déjà des problématiques avec l'école ancienne.
Oui, mais alors dans ce cas-là, parce qu'effectivement, on en a des élèves qui arrivent au collège et qui, pour lesquels déjà un certain nombre de dispositifs ont été mis en place, voire pour certains dès la grande section. Moi, ce qui m'interroge, c'est que on rajoute encore et encore des dispositifs d'aide pour l'élève face à des apprentissages qui ne se font pas, mais une prise en charge globale de l'élève en tant qu'individu, pour l'instant, on n'a aucune trace de ça. Et peut-être bien que si on avait songé au bout d'un moment, quand on constate qu'il y a du RASED, qu'il y a des autres aides qui ont été mises en place autour de cette scolarité, de répondre autrement que par uniquement de l'aide scolaire, on arriverait peut-être à voir une difficulté qui évolue de façon différente. Parce que au bout d'un moment, un élève qui est en difficulté scolaire, qui n'arrive pas à s'inscrire dans les apprentissages, et auquel on propose des remédiations uniquement scolaires, force est de constater que ça ne fonctionne pas. Comme vous le dites vous-même, vous identifiez les élèves qui ont eu des aides déjà en primaire, vous les mettez en place en sixième, vous ne constatez pas de fracture à la sixième, mais vous vous retrouvez, comme la majorité des établissements, sur une phase de cycle central où il y a deux types d'actions qui ont pu être développées par l'élève qui n'évolue pas de façon épanouie au collège. Soit on a un repli sur lui-même et il est présent, mais tout en étant dans une énorme distance vis-à-vis des apprentissages et de la classe, soit il va partir dans une dynamique éruptive parce que c'est compliqué pour lui de subir au quotidien des apprentissages qui ne font pas sens. Et mettre en place uniquement de l'aide scolaire ne me semble pas suffisant du moment qu'on n'a pas cherché à mettre en place la question du sens des apprentissages pour ces enfants.
Alors, je ne dis pas non plus que seule l'aide scolaire ait été mobilisée. Hein, il arrive très souvent que le psychologue du RAZ ait été mobilisé, par exemple, hein, très souvent dans ces cas-là. Et il arrive aussi que ces enfants aient eu des suivis au CMS, des suivis en orthophonie, des suivis y compris par les conseillers d'orientation psychologue chez nous, ou des suivis enfin, un certain nombre d'autres suivis. Mais ce qui est vrai en revanche, et là où malheureusement je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'on a additionné, multiplié, voire parfois superposé les aides avec, je dirais pas, enfin sans effet, je dirais pas sans effet, puisque je suis foncièrement optimiste, mais en tout cas avec des résultats très limités.
Puis il ne faut pas oublier que ce qui est mis en place, notamment en termes de suivi CMP à l'enfance, et qui peut être mis en place sur quelques mois et s'arrêter parce qu'il n'y a pas de besoin, peut largement se réactiver à l'adolescence. Parce que l'entrée dans le processus adolescent réactive les difficultés initiales, notamment en termes de l'individu et de son positionnement personnel.
Bien, on va...
Oui, c'est rapide. Moi, j'ai évidemment été passionné par la démarche que tu as présentée. La question que je me pose, c'est l'effet du formalisme de la signature tripartite sur la relation qu'il y a avec les parents. Est-ce que ça les effraie? Est-ce que, bon, c'est un papier qu'il faut signer? Le fait qu'on signe un contrat avec peut-être une inégalité, bien évidemment, entre le parent ou les parents, quand dans le meilleur des cas, et puis les deux institutions que seraient le... Est-ce que vous avez travaillé sur cette question, sur l'effet du formalisme juridique?
Alors, par rapport à la question, d'abord, l'aspect de l'inégalité, on tente au maximum de l'éliminer par rapport à l'inégalité vis-à-vis de l'écrit, dans le sens où tout est reformulé. Je ne laisse jamais sur la base de l'écrit. Tout est reformulé avec la famille. Après, pourquoi contractualiser? Parce que on est quand même dans l'institution scolaire. Et c'est un moyen aussi qu'on a choisi de mettre en place pour rendre compte à la famille que ça reste dans le cadre de l'école. Parce que c'est vraiment bien la peur fondamentale de ces familles, c'est que je sors de l'école. Or, l'école a l'habitude de communiquer avec eux par de l'écrit. Donc, en maintenant un document écrit dont ils ont un exemplaire, ça permet de maintenir ce cadre-là. Et en plus, je me sers, en fait, après, parce que dans le premier temps, là, c'est l'engagement avec les responsables légaux. Mais il y a quand même un élève au milieu de tout ça. Et la disposition, en fait, qu'on a prise des signatures, avec au sommet du triangle le parent, puis après l'institution du collège et de l'atelier relais, je m'en sers toujours pour dire, quand je me tourne vers l'élève, il manque quoi là au milieu? Alors bien évidemment, je ne lui demande pas sa signature, parce qu'il n'est pas en âge de signer, mais c'est ce qui me permet de passer du discours au parent. Et après, je me tourne vers l'élève. Alors ça aussi, entre guillemets, c'est mis en scène, parce que pour beaucoup des familles que nous accompagnons, ils ont des difficultés avec leur enfant pour se positionner en tant que parent. Donc c'est la raison pour laquelle, dès le départ, de façon très formaliste, je ne m'adresse qu'aux parents. Et après, je vais voir l'enfant.
Oui, donc moi, ma question, c'était en fait, quelle est la place du musée du costume dans l'ensemble des stratégies de remédiation? Alors, je précise ma posture. Moi, je travaille sur un territoire où il y a un musée de la soie. Je travaille avec le centre Jean Villard, avec le musée du tissu de Lyon ou l'ITF, qui sont y compris les textiles modernes. C'est-à-dire, comment le musée du costume est impliqué dans la convention que vous avez avec les familles?
Il a impliqué, par exemple, sur ce qui a été fait sur la période de novembre-décembre, il y avait l'exposition de Christian Lacroix. Donc, d'une part, dans le cadre du parcours des métiers, découvertes et formations, les animatrices sont reparties de Christian Lacroix, styliste. Elles ont refait le lien, le styliste, mais dans la grande distribution, donc de la vente, des métiers de la vente, ce qui nous a permis... avec les de faire découvrir les métiers de la vente, les métiers du merchandising et ensuite d'accompagner les élèves sur les lieux de formation de ces métiers-là. Et d'un autre côté, dans les activités de médiation artistique culturelle, à travers les activités pédagogiques, les ateliers pédagogiques du CNCS, ils ont ensuite mobilisé, le groupe d'élèves s'est mobilisé pour la création de costumes et la réalisation d'une vitrine dans le collège qui est juste à côté, le collège Célestin, qui a justement dans son hall, un petit peu comme ici, donc ce qui a permis aux jeunes de mettre en application aussi les métiers qu'ils ont découverts.